7h30 en direct, c'est Showtime. Oh là là, ce matin, ça va être une belle rencontre. Une rencontre avec, avec à la fois quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet et un nouvel outil, un joujou que vous avez peut-être testé ou que vous ne connaissez peut-être pas encore. Je veux parler d'Oculus Quest, la version 2, sachant qu'il y a la 3 et la 4 qui se préparent. Oculus Quest, vous ne savez pas ce dont il s'agit. Ça tombe bien, moi non plus. Je pense qu'on va parler de jeux en réalité virtuelle avec une, ces jeux tout en un, nouvelle génération. On en parle tous ensemble ce matin. J'ai le plaisir et l'avantage d'avoir auprès de moi notre ami Christian. Bonjour Christian, comment ça va?
Bonjour PPC, ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes au passage.
Eh ben c'est sympa. Merci Christian. Toi, tu maîtrises cet nouvel outil, ce casque immersif qui est proposé par Facebook. On en est déjà à la version 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ce dont il s'agit? Qu'est-ce que c'est Oculus Quest 2?
Alors le 2, c'est, ça suit logiquement la version 1 qui est sortie il y a un peu plus de 2 ans. Le Quest 2 est sorti rapidement, un moins d'un an et demi après la première version. Donc, c'est un casque de réalité virtuelle. Qui permet de se projeter en immersion avec un casque sur la tête, donc visuellement et auditivement, dans un espace réel et surtout irréel qui s'appelle virtuel, reconstituant en 3 dimensions, d'être complètement immergé dans une expérience pour l'utilisateur, pour pouvoir jusqu'à faire des manipulations dans vraiment un espace tout à fait virtuel. Et le Quest, depuis le 1, donc le 2 améliore ses capacités, permet par rapport à d'autres casques d'être sans fil, d'être complètement autonome et de ne pas avoir d'ordinateur relié, qui était très pénalisant.
Alors, ce casque à réalité virtuelle sort des laboratoires de Facebook Technologies, hein, c'est ça? Quels sont les principaux enjeux que tu peux voir? C'est-à-dire que Facebook se met à faire du réalisme avec une capacité à répliquer le monde, c'est ça?
C'est ça, exactement. Alors, c'est Oculus, donc la marque originale, Facebook a complètement acquis. C'est vrai que les enjeux sont autant marketing que techniques. Je pense qu'au niveau du marché de la réalité virtuelle, surtout côté grand public, pour eux, c'est un appel, c'est vraiment des nouveaux enjeux, une croissance qui est vraiment vue par beaucoup d'analystes qui va être très, très forte, entre 30 et 50% d'ici 2025. Et donc, le marché pro est déjà plus ou moins acquis. C'est vraiment le déploiement qui reste un petit peu freiné dû le coût des équipements, évidemment, pour chaque utilisateur. Il y a vraiment des enjeux très forts, surtout là, avec tout ce qui est distanciel.
Il y a aussi un enjeu, je crois, avec ces casques. Hein. C'est ce qu'on appelle la vitesse de calcul, qui permet d'éviter le syndrome du mal de mer. Cette version 2, toi, tu l'as testée, c'est vraiment un plus par rapport à la précédente?
C'est un plus au niveau du calcul, c'est vrai, parce que là, c'est multiplié par 2 ou 3 sur certaines expériences. Ce qui est le plus aussi, c'est au niveau de la définition d'affichage dans le casque au niveau visuel, hein, parce que donc c'est des dalles, donc on est revenu sur des dalles LCD. Là on est au-dessus un petit peu de ce qui existait, qui était le meilleur du marché, qui était Vive et Vive, il faut le prononcer. On n'est pas encore au niveau de Webpacker, mais on s'en approche. Là donc dans une meilleure définition, on a plus l'effet grille, de moins en moins en tout cas. Et donc là, il n'y a plus cet effet de nausée qui peut quand même persister pour toutes les personnes atteintes du mal de transport. Quand même, je précise, quand même être prudent, il faut faire des tests progressifs. Et pas aller directement dans les montagnes russes où là, c'est pas bon.
C'est un peu chaud. Alors, il y a quand même aussi un enjeu, je pense, d'adoption du marché pour Oculus, car le combat de l'adoption sera, et on en parlera avec vous tous qui êtes présents sur Twitter Spaces et sur Clubhouse, je l'espère, on va vous ouvrir le micro. C'est quand même le combat de l'adoption entre la VR, la réalité virtuelle, et puis la réalité augmentée, la fameuse AR. Il y a un grand combat là-dessus. Pour toi, Oculus va gagner ou c'est foutu? C'est plus le marché de la VR, c'est le marché de l'AR.
Il se positionne bien, c'est deux marchés différents, mais qui se recensent. Donc là, ce qu'on appelle l'AR, donc la réalité mixte entre les deux, qui joint la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors, c'est que la réalité augmentée, donc on n'est pas obligé d'avoir un casque aussi lourd que la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est vraiment un casque qui englobe totalement, totalement immergé dans son casque. La réalité augmentée, l'avantage, c'est que donc ça passe juste une paire avec une projection sur des verres, juste un smartphone, où là, c'est des éléments virtuels qui sont rajoutés sur une autre vue réelle. avec un Oculus Quest, donc le 1 le permettait, le 2 le permet un petit peu mieux, donc avec cette caméra de vision qui permet de se repérer dans l'espace, on peut déjà approcher, mais ça n'est pas de la vraie réalité augmentée. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour Facebook, tout le monde se lance dessus, c'est qu'avoir un casque qui peut-être plus tard sera le mode hybride, sera très intéressant et je pense que ça sera beaucoup vont aller dans cette direction.
Tu sens aussi qu'il y a ce besoin de prise de recul des utilisateurs pour éviter l'addiction, parce que cela est très addictif d'être plongé dans ces univers virtuels.
Tout à fait, on y reste, un petit peu comme tout ce qui est au début nouveau. C'est ça qu'on est dans des vraies expériences, et il y a des expériences pas que de jeu, il y a des expériences aussi humaines, on peut faire des rencontres, comme Clabos actuellement qui est très sur ce sujet qui attire beaucoup de monde et qui est très chronophage. L'activateur, c'est le même principe, une fois qu'on y est, c'est vrai qu'il y a des expériences qui peuvent être très chronophages, on peut y rester des heures. La limite, on a quand même une limite technique avec le Quest, comme il n'y a pas de fil et la batterie, donc là, au bout de 2 heures, 3 heures max, 2 heures, 2h30, on est coupé, donc là, pas le choix de brancher. Donc, il faut arrêter un petit peu l'expérience.
Ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a quand même un enjeu, peut-être qu'on pourrait peut-être qualifier de sociétal. On pourrait peut-être demain tous se retrouver dans un univers à la Matrix, enfin, si on n'y prend pas garde, mais peut-être qu'on y est déjà. Qu'est-ce que tu en penses ?
On y est peut-être déjà, et peut-être que les casques vont nous permettre de sortir de cet univers.
Un dernier point, et là, c'est plutôt un enjeu pour Facebook. Forcément, quand on est dans des univers virtuels, on réagit, on interagit, on a ses équilibres. Il y a quand même un immense enjeu, à mon sens, qui est celui de la data pour Facebook. Qu'est-ce que tu en penses ?
Effectivement, c'est hormis la localisation où on n'a pas besoin de casque, on sait déjà où nous sommes. Et au niveau de la data, il y a plein d'informations qui peuvent être récupérées. Et au niveau de la data, c'est aussi technique pour une meilleure fonctionnalité du casque. Donc, il y a les usages du casque, qui, évidemment, il récupère au fur et à mesure. Et le tracking des yeux, je pense que ça fera partie des data. Après, on pourra effectivement se projeter un petit peu sur d'autres data. Les montres connectées y participent déjà. Donc là, associé avec les casques, ça sera encore plus puissant, j'imagine. Donc tout ce qui est santé, donc là, on arrive sur des données sensibles. Et c'est vrai qu'il y aura une base de data quand même assez impressionnante qui va permettre d'évoluer technologiquement et de proposer de nouveaux usages de plus en plus adaptés. Ça, il faudra rester vigilant quand même sur ce data qui se promène un petit peu partout.
On passe maintenant aux cas d'usage, aux exemples. Toi, tu utilises Oculus Quest. Tu fais quoi avec ça ?
Alors, un petit peu de jeu. Alors, c'est que la réalité virtuelle, c'est beaucoup connu pour le gaming, mais pas que. Il y a beaucoup d'expériences qui ne sont pas que le jeu. Moi, je l'utilise donc pour des rencontres. Encore hier soir, donc j'étais en train d'échanger, comme on peut le faire avec Clabous. La seule différence, c'est que là, on est avec des vrais avatars. Laura nous a posté gentiment donc les futurs avatars qui vont être déployés sur Oculus, donc c'est Oculus Venue. Bon, j'ai participé pour le programme bêta, donc j'en profite. Et c'est vrai que c'est assez sympa, c'est de plus en plus pas réel, parce qu'on n'est toujours pas dans le reste, ça reste du virtuel, on reste du avatar. Mais du coup, les mouvements d'élèves sont de plus en plus réels et on participe, on échange véritablement avec des personnes réelles. Donc là, on rajoute le mouvement des mains, le mouvement des têtes et de la bouche quand on s'exprime. On peut checker, on peut se faire des pouces, on peut, voilà, on peut dialoguer. L'usage qu'on peut en faire, il y a un usage que j'en fais par exemple sur des post-prod audiovisuels. C'est anecdotique parce qu'il n'y a pas de plus-value par rapport à un échange en visioconférence classique. On peut dérusher, que je suis avec un ami réalisateur, on dérush les films qui ont été tournés dans une salle, donc on choisit. Hein, donc là, c'est très, très évasif. On peut se mettre dans un avion, dans un jet privé, en haut de la montagne, comme si on était à la Clusaz, par exemple, dans une rame de métro, dans une salle de cinéma privée au Grand Rex. Donc là, on choisit notre lieu et on peut donc regarder à plusieurs. Il y a le truquiste, le monteur. On dérush, on choisit, on peut reprojeter donc l'élément qu'on a monté à la fin, qu'on a truqué, et reparler. Donc évidemment, l'intérêt est peut-être minime, parce que là, ça reste qu'elle jette, mais c'est assez sympa de se retrouver. Donc il y a des gens de Marseille, d'Orléans, donc de Paris, et on peut se retrouver. Donc c'est une utilisation assez fun, mais qui est de plus en plus adoptée par l'entreprise. Il y a des produits qui sortent, hein, qui sont déjà au point depuis 3 ans, qui là commencent à être développés au niveau entreprise pour se retrouver dans des salles de réunion, comme au bureau, où on profite donc du tableau de bord, d'un tableau blanc, d'un projecteur, d'un post-it pour surligner, etc. Et là, c'est des utilisations semi-pro qui, je pense, ont de l'avenir justement avec le monde de télétravail actuel.
Il y a des commentaires sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch. On va faire monter aussi sur Clubhouse, l'ami Patrick. Toi, tu es sur Twitter Spaces. Donc, on fait une jonction entre Twitter Spaces et Clubhouse. Donc, vous pouvez arriver sur l'autre si vous voulez causer. Jean-Manuel qui nous dit que c'est du remote, en quelque sorte, ces histoires avec Oculus. Tu es d'accord avec ça ou pas?
Alors, on n'est pas dans du remote entièrement. Il y a en fait la partie intelligente là, dans le casque, ce qui fait qu'on est limité, il y a encore des systèmes perfectibles. Par contre, prochainement, oui, donc peut-être pas le casque 3 qui est déjà annoncé en développement, donc qui va s'améliorer encore techniquement. J'imagine plus vers le 4, où là, on sera peut-être plus avec une connectivité 5G, actuellement on est en Wi-Fi, où là, j'imagine bien être relié du coup à un centre de calcul, donc là on pourra profiter d'une véritable IA à distance, c'est-à-dire on pourra faire vraiment des véritables interactions intéressantes à mon avis.
C'est Laurence sur Twitter qui nous dit, on commence à sortir des modes démo du début, maintenant on n'a plus besoin des manettes, c'est vrai que c'est en train de partir en FPV, c'est ça, on appelle ça comme ça?
C'est ça, alors le tracking des mâles, mis sur le Quest 1, donc ça a commencé en bêta et puis en dev, donc j'ai pu développer sur ce sujet, c'était très intéressant. Là sur le 2, c'est un peu plus mis en avant, plus développé, donc les expériences ne sont pas toutes compatibles, évidemment. On imagine bien qu'un, je vais prendre des exemples qui sont classiques sur le Quest, donc très courant, un jeu de Star Wars, un jeu de Beat Saber qui est connu aussi dans les autres mondes, que ce soit le PSVR ou PC. Donc c'est un jeu où on a des sabres laser où on doit donc faire un peu de fitness, c'est rythmique. Au rythme de la musique qui a des briques qui arrivent, dans un certain sens ou non. Donc là, avec une manette dans les mains, ça, on a un objet réel, tiens, donc on sent physiquement qu'il y a des vibrations, donc il y a un retour haptique. Là, du coup, ce genre d'expérience, sans rien dans les mains, juste en reconnaissance des doigts, et voilà, manque d'intérêt, du coup, on a une petite sensation. Par contre, c'est génial pour manipuler dans l'espace, en manette. Là, le Quest va jusqu'à, donc, vraiment, c'est chaque doigt et chaque phalange est représenté. On peut donc jouer du piano, manipuler des objets, donc sans les sentir. Ce qui manque encore, là, c'est vraiment les dents haptiques qui sont toujours en état de test et de bêta, mais pas encore déployé au niveau grand public. Et ça, par contre, ce sera une grande évolution, je pense.
On va accueillir notre ami Patrick qui est en direct sur Clubhouse. Et je prends le petit commentaire de Lionel qui nous dit « La reconnaissance des mains permet d'imaginer de futurs usages très puissants. Piano, clavier. Bonjour Patrick, comment ça va ? Salut.
Bonjour PPC, bonjour à tous.
On a des questions à poser à notre ami Christian qui se trouve, lui, sur Twitter Spaces. On mélange les deux mondes.
J'ai un Oculus Rift, première génération, il fallait brancher plein de câbles et tout ça. Très compliqué. Et une bulle. Donc, mais ce qui est absolument incroyable, et dès que tu mets le casque sur la tête, c'est l'effet waouh. Et c'est vrai que ça, les gens qui n'ont pas essayé peuvent pas se rendre compte de l'effet que ça a. Beaucoup plus d'ailleurs que sur de la réalité augmentée, qui quand même a un avenir beaucoup plus important, je pense, que la réalité virtuelle. Mais on n'a pas cet effet waouh comme on peut avoir quand on met un casque Oculus ou HTC Vive, hein, puisque ce sont les deux principaux concurrents sur le marché. Il y a bien sûr d'autres générations de casques, hein, plus haut de gamme, qui valent des prix beaucoup plus élevés. Mais c'est quand même impressionnant comme technologie.
Donc toi, tu es accro, mais tu crois plus à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée sur la pénétration du marché ?
En fait, la réalité virtuelle n'a pas vraiment encore pris. On est dans un domaine de niche, on n'est pas dans ce qu'on appelle le mainstream. Par contre, il est clair que la réalité augmentée qui va permettre de bouger, parce que malgré tout, on ne peut pas se balader dans la rue avec un casque comme ça, parce que c'est quand même relativement encombrant, là va nous permettre de sortir vers l'extérieur, de franchir un nouveau pas, ce qu'on appelle les métaverses, en fait, qui existent d'ailleurs dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde de réalité augmentée, qui vous permettent en fait de mettre des surcouches sur le réel et d'avoir un monde augmenté, comme on l'explique, ou entièrement virtuel, un petit peu comme les couches d'un oignon, en fait. Et ça, c'est aussi des choses nouvelles qui vont arriver. Et je pense aussi qu'on pense à une simple dimension visuelle avec un casque, mais en fait, on n'a pas qu'un simple casque pour demain. L'aspect inaptique, ça va être aussi certainement des éléments dans les pieds, dans les mains. Il n'y aura pas que le casque sur la tête. Et même une combinaison. On va vers un ensemble de technologies, je pense.
Alors, c'est Alto qui me dit on pourra smartphoner sans téléphone. Et c'est vrai que c'est une réalité dans la formation pour l'industrie, nous dit 4 lettres, ce casque VR. Et David nous dit, vous êtes où? On est à la fois sur Twitter Spaces, mais aussi sur Clubhouse. Il y a une room qui est ouverte ce matin. Voilà. Pour l'effet mal de mer, le salon nautique était proposé en VR, nous signale Lionel sur YouTube. On parlait des métaverses. Peut-être on pourrait accueillir une voix féminine si elle est dispo pour nous parler de ces fameuses métaverses. Qu'est-ce que vous en pensez? J'invite Laura, notre amie, qui connaît bien le sujet des métaverses. Peut-être qu'elle peut venir rajouter quelque chose. Elle est dans la room. Peut-être qu'elle arrivera. Je ne sais pas. On verra. Voilà, c'est du direct. C'est comme ça que ça marche. Et on pourra smartphoner sans téléphone avec des lunettes connectées. Le smartphone, c'est un hub, nous signale David. C'est vrai que c'est plutôt un hub. Bonjour Laura, les métaverses alors.
Bonjour Laura.
Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Les métaverses, moi, ça me fascine complètement parce que on est en train de basculer vers une avatarisation totale en fait. On va finir par plus sortir de chez soi et il faudra avoir de la place autour parce que avec les outils dont a parlé Christian aujourd'hui, on bouge quand même. Donc, je sais pas trop où tout ça va nous mener. Ça me rappelle le film avec Sandra Bullock et je crois que c'était Schwarzenegger, non? Où il faisait tout à travers les casques, même l'amour.
Oh là là, je sais pas, il est trop tôt pour moi ce matin. Tiens, je vais vous faire rebondir. Christian, je vais te faire rebondir sur un propos de Lionel qui, sur YouTube, nous dit « Le monde du spectacle sinistré se positionne-t-il sur la VR ?» T'as vu des choses intéressantes, toi qui connais bien ce monde du spectacle?
Oui, le spectacle et le divertissement, y compris sportif. On sait plusieurs années qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, qui sont retransmises en réalité virtuelle. On peut observer via un casque. Donc, il y a eu il y a 4 ans Roland Garros. Plus récemment, il y a eu Jean-Michel Jarre à Notre-Dame, où là, donc, on était vraiment dans l'univers virtuel, donc c'était en live aussi. Couramment, il y a des lives beaucoup, donc aux États-Unis, évidemment. Ils sont beaucoup, un petit peu plus, beaucoup, ouais, c'est pas très fort ce que je dis, mais sans signer, en tout cas, j'espère. Un petit peu d'avance de ce côté-là, c'est plus déployé. Donc, il y a des matchs de NBA, etc., qui sont retransmis en direct, donc on peut y assister. L'expérience de France Télévisions qui était reconduite, donc en 360. Ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit en fait sa place dans le stade. Donc, vous imaginez un des cours principaux de Roland Garros. Là, on choisit, donc soit on est côté gauche, côté droit, soit côté milieu, soit côté même arbitre. Il y avait une caméra et deux autres qui étaient placés au niveau de l'arbitre. Donc là, on s'amuse avec le mouvement de tête. Donc là, il faut faire très attention à la nausée avec le casque sur la tête. Surtout qu'il y a 4 ans, les casques sont beaucoup plus lourds qu'actuellement le Quest. Donc il y a des concerts aussi, c'est très intéressant, j'en ai fait plusieurs, certains en live qui ont été retransmis. Donc là on est dans la place spectateur, donc après l'intérêt là est mini parce que si on se retourne on voit les autres personnes. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il y a une interaction possible qui a été faite avec Jean-Michel Jarre, où là du coup dans la salle, dans Notre-Dame du coup, on pouvait en même temps écouter le concert de Jean-Michel Jarre et voir les effets, perfectibles ou pas, vu l'urgence qui était au déploiement. Donc, j'ai aussi dialogué avec les participants qui étaient là et j'en ai vu qui n'étaient pas forcément français, mais c'est pas ça en France, mais plusieurs. Donc, il y avait un décalage avec les États-Unis, entre autres, et l'Asie qui était déjà passée. Donc, il y avait des échanges assez intéressants. Donc, c'est ça, je trouve que ces opportunités-là sont très bien. C'est ce mélange de live et de véritable interactivité. Donc, pour le salon nautique, ce que disait Lionel, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, où là, c'était très plaisant de voir les exposants. Donc, on peut déambuler, donc pas trop vite. Toujours cet effet de nausée, il faut toujours être plus bien. Je reviens souvent là-dessus. C'est très, très important parce que ça gâche vraiment, pour certains, l'expérience. On peut dialoguer avec les exposants, mais aussi avec les visiteurs, entre nous, entre visiteurs. J'en ai même vu négocier des prix au salon Laval, qui était dédié à VR, évidemment. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences qui vont être de plus en plus proposées. Et c'est de plus en plus souple. Et c'est vrai que l'avantage du Quest, c'est que, comme le disait Patrick, par rapport aux anciens casques, qui existent toujours, on n'a pas cette cette nappe de câbles qui sort de derrière la tête, qui nous tire en arrière, qu'il faut faire attention, ne pas se prendre les pieds, etc. C'est que là, le câble, il pèse encore un kilo, on met sur la tête, on allume, ça fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir un ordinateur à côté qui est branché avec un gros câble qui coûte des milliers d'euros pour faire fonctionner une simple expérience, une simple vidéo. Là, on le met, on allume et on y est en 30 secondes, on est dans l'espace.
Ça y est, c'est branché. C'est Pierre qui, sur Twitter, nous dit ne pas oublier l'industrie du sexe qui est toujours très en avance dans l'innovation avec notamment des combinaisons tactiles, l'Internet, des objets. Enfin bref, ça fait plein de choses. Lionel nous quitte, il est sur YouTube.
Je confirme.
Dans le monde réel. Tu confirmes, Christian, c'est bon.
Je confirme. Alors, je ne les ai pas essayés, mais c'est vrai. Donc, côté Asie, c'est vrai que donc, c'est toujours très en avance. Côté juste production du visage, donc on a notre ami Dorset qui est bien connu, qui a toujours été en avance et sur les technologies. Dès qu'on est passé au relief, etc. Donc là, avec le 360, donc il est très en avance dessus, donc 360 relief et ambisonique, donc pour être vraiment spécialisé au niveau du son, au niveau de l'audition. Donc il a fait des expériences. Donc là, évidemment, ce n'est pas interactif, on ne peut pas s'amuser avec ses partenaires dans l'action du game, voilà, c'est juste une vidéo à suivre, on est en mode passif, mais peut-être qu'on peut imaginer par la suite, oui, il y aura des expériences dans ce sens, et j'ai vu dans les news passer donc il y a un an et demi, donc c'était en test, donc oui, en Asie, donc une combinaison haptique, donc reliée, donc on est dedans, et donc une expérience, donc effectivement, c'est moins de 18, enfin plus de 18, pardon, dans ce sens-là, donc où il y a des essais, je pense, qui vont être, donc il faut quand même ne pas rester enfermé et rester coincé
dans la combinaison latex.
Voilà.
Merci beaucoup.
À défaut de vibrations.
Merci. C'était super épisode. Merci beaucoup. Toi qui écoutes cet épisode sur tes plateformes de podcast, c'est maintenant fini, terminé. Tu peux profiter pour partager auprès de tes amis sur les réseaux sociaux, mettre une note si tu es sur Apple Podcast, tu mets un 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou. Je te laisse. On a rendez-vous encore pour quelques minutes avec ceux qui sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, sur Clubhouse et sur Twitter Species. À tout de suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.